Voilà, alors le premier point, vous voyez que c'est un texte poignant d'émotion, un texte qui ne nous laisse pas indifférents, un texte qu'on pourrait utiliser à plusieurs occasions sur l'injustice, sur le statut de l'esclavage ou de la servitude, et encore sur l'intégration des marginaux, de ceux qui sont rejetés. Mais l'angle que je choisis aujourd'hui, c'est simplement montrer que celui qui est rejeté, celles et ceux qui sont rejetés, ne sont pas forcément abandonnés, puisque la parole nous dit très bien que je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et d'où cet exemple que nous trouvons ici. Agar a été une première fois chassée. Nous trouvons ce texte au chapitre 16 de la Genèse. Chassée alors qu'elle est enceinte. Pour quelle raison? Puisqu'elle n'avait pas tout à fait respecté les termes du contrat. Et une première fois, elle bénéficie du soutien du Seigneur qui l'exhorte à retourner vers sa maîtresse Sarah. C'est un retour pour le moins difficile, car il lui faut s'humilier, demander pardon à celle qu'elle avait blessée. Elle, qui n'avait pas, signalé, respecté le contrat selon lequel l'enfant qui naîtrait d'elle serait celui de Sarah. Mais aussi, elle a regardé avec mépris sa maîtresse. Il n'est jamais facile de s'humilier devant l'autre contre lequel on a mal agi. Et d'ailleurs, le chapitre 16, verset 9 le dit. En langage biblique, on appelle cela la repentance. Mais la démarche d'Agar est salutaire. Si elle veut continuer d'exister, il lui faut obéir à l'exhortation de l'ange de l'Éternel. Alors, imaginons la difficulté pour elle de retourner dans la maison d'Abraham et de sa maîtresse, Sarah. Le texte ne nous dit pas comment elle a été accueillie, comment elle a été reçue par Abraham et son épouse. Mais on ne fait pas parler les silences du texte, mais je peux imaginer que le retour d'Agar a été pour le moins particulièrement difficile. Deuxième sujet que je traite avec vous là, Dieu fidèle à sa promesse. Alors, si nous considérons encore le chapitre 21, plusieurs années se sont écoulées après cet épisode relativement difficile, douloureux pour Agar. On aperçoit et on découvre au chapitre 21 que Dieu renouvelle sa promesse à son serviteur Abraham. Il l'avait déjà signalé au chapitre 17, au chapitre 18 et au chapitre 21, le narrateur précise ceci. L'Éternel intervint en faveur de Sarah comme il l'avait dit, selon sa parole. Rappelez-vous que quand Dieu avait fait la promesse à Abraham qu'il aurait eu une descendance, Abraham était âgé de 75 ans et Sarah 65 ans. Et quand la promesse s'est réalisée, Abraham avait 100 ans et Sarah 90 ans. Le couple a donc attendu 25 ans avant que la parole, la prophétie ne s'accomplisse. On peut saluer cette patience qui nous interpelle aujourd'hui, puisque je ne vous apprends rien en vous disant que nous vivons dans un monde qui prône la satisfaction immédiate de nos besoins. Vous pouvez tout avoir et tout de suite. Notre monde est celui de la consommation de masse, du consumérisme effréné. Vous n'avez pas d'argent, c'est pas grave. Vous pouvez tout acheter et payer en 10 fois. N'attendez pas, c'est tout de suite. Et évidemment, nos enfants grandissent avec cette mentalité. Essayez de leur dire, mais attends un mois, je dirais même une semaine. Attends une semaine avant que je ne t'achète ton portable. Eh bien, viens vous casser les pieds pendant toute, toute, tous les jours, jusqu'à ce que vous lui donniez ce qu'il vous demande, cet enfant. Et même si c'est très cher, mais c'est peu importe le prix, ça ne compte pas. C'est tout de suite, je veux tout de suite. Il fut un temps où l'enfant se définissait en ces termes, je dois, mais aujourd'hui, les choses ont bien changé. L'enfant ne dit plus je dois, mais j'ai droit. Vous voyez, j'ai droit. Abraham nous donne une leçon de patience. Je l'ai dit, le monde dans lequel nous vivons exerce une réelle pression sur nous. Il nous fait croire que nous pouvons tout avoir, je l'ai dit, tout de suite, et qu'il est inutile d'attendre, notamment dans le domaine moral. Pas besoin d'attendre le mariage pour vivre ensemble. Voyez ? Alors que je lis dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4, l'amour est patient. Il faut savoir, au prix de la fidélité à Dieu, résister à cette fascination que le monde exerce sur nous. Nous, les adultes, nous subissons aussi cette pression qui est propre à notre époque. Lorsque nous prions, sachons résister à la tentation de commander Dieu. Je t'ai demandé ceci ou cela, tu devrais me le donner immédiatement. Sinon, je ne serai plus zélé, je ne serai plus régulier, je serai plus engagé dans ton Église. Vous voyez, on a même le langage du marchandage avec le Seigneur. Tout de suite, lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, on veut qu'il nous le donne immédiatement. Mais nous comprenons que Dieu n'est pas un jouet entre nos mains. Nous ne pouvons pas non plus le réduire à notre propre entendement. Dieu est parfaitement libre d'agir comme il veut. Et notre patience doit s'exercer également dans l'Église. Nous aimerions voir notre Église se développer très rapidement, avoir du monde qui arrive en masse de partout. Mais sommes-nous prêts et préparés à accueillir les nouveaux, à les accompagner, à leur donner du temps, à leur donner de notre écoute, à leur donner de notre hospitalité? On aimerait que les choses bougent plus vite, mais la parole de Dieu nous dit ceci, que l'homme qui désire construire une tour s'assoit d'abord pour évaluer les dépenses avant de se lancer dans une pareille entreprise. Luc chapitre 14, verset 28. Alors, sommes-nous patients les uns envers les autres? C'est la question sur laquelle nous pouvons réfléchir. On l'a vu, Sarah a peut-être fait preuve d'impatience en voulant forcer la main de Dieu. Elle a payé, d'une certaine manière, les conséquences de son impatience. Si on réfléchit un peu sur Abraham, on découvre plusieurs paradoxes dans sa vie. L'homme que Dieu a appelé pour bénir le monde entier apparaît comme défavorisé par rapport aux autres. Alors que Dieu lui promet une terre, il mène d'abord une existence de nomade. Quant à la promesse du fils, il doit attendre 25 ans, jusqu'à l'âge de 100 ans, pour pouvoir assister à l'accomplissement de la promesse. Une autre leçon qu'on peut tirer de cette... Une autre leçon spirituelle peut être dégagée dans ce récit. Il est dit que Dieu intervient en faveur de Sarah et d'Abraham au moment où tout espoir semble être ruiné. Souvenez-vous, lorsque Dieu avait annoncé à Abraham qu'il aurait une descendance, Sarah qui écoutait avait ri. Elle avait ri. Un rire peut-être ironique et en même temps incrédule. Et les envoyés du Seigneur l'avaient interpellée à ce propos et elle s'en était tirée par un pieux mensonge. Non, je n'ai pas ri, mais elle a ri véritablement. Et Abraham lui-même, si nous considérons le chapitre 17, verset 17, avait ri. Il avait ri devant la folie d'une telle promesse divine. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous les deux en train de rire. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas du rire de l'incrédulité, mais du rire de la foi, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu est capable de faire, mais c'est étonnant. On ne peut pas rester, ça nous fait rire. La manière dont Dieu agit puissamment à mon âge, 100 ans, 90 ans, mais non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et là, ça fait rire. Et d'ailleurs, le nom qu'ils vont donner à leur fils sera Isaac, qui signifie rira, rira. La naissance de cet enfant déclenche des éclats de rire. Et je suppose, d'ailleurs, Sarah le dit, lorsque les gens apprendront cela, mais des gens vont rire. Sarah, 90 ans, a enfanté un fils à son mari. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il faut aller le voir. Il faut aller le voir. Et donc, tout le monde rigole. C'est merveilleux. Et pourtant, Abraham a toujours fait confiance à Dieu. Il s'est rappelé que la marche avec Dieu est une marche par la foi et non par la vue. Et c'est ce que l'apôtre Paul rappelle dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Puissons-nous apprendre à travers la méditation de la vie d'Abraham ce que croire en Dieu signifie véritablement et ce qu'espérer en Dieu veut dire, que sont réellement la patience et la foi. J'insiste encore sur cet incident du rire. J'ai dit que tout le monde riait. Tout le monde riait de la réalisation de cette promesse. Ce qui paraissait impensable a été réalisé. Au verset 8, un incident se produit à la suite de ce grand festin donné par Abraham au moment où le rire est à son zénith. Il est dit au verset 9, « Sarah vit rire le fils de l'Égyptienne et ce rire ne lui fait pas rire, justement. » Voyez, donc, voilà, nous, si nous lisons le texte au verset 9, il est dit ceci, je le lis pour vous. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec Isaac, mon fils. Quoi de plus naturel que le rire ? Je ne sais pas si vous avez regardé ce merveilleux film, je vous le recommande, je ne sais pas, il est très ancien, Le nom de la rose. Ou si vous n'avez pas regardé le film, vous pouvez tout au moins lire le livre de Umberto Eco, Le nom de la rose. Bien, il y a une séquence assez intéressante, philosophique et amusante autour du rire. On pose la question sur la licéité du rire. Est-ce que, en tant que moine, on doit rire ? Est-ce que, bon, des gens qui servent le Seigneur doivent rire ? Et c'est assez intéressant, puisqu'au Moyen Âge, le philosophe Aristote était tenu en haute estime dans ce monastère. Et il avait écrit un livre dans lequel il faisait l'apologie du rire. Or, l'abbé supérieur, George, qui prenait le sérieux, l'austérité, en avait une autre interprétation. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a empoisonné le livre en question, le livre sur la licéité du rire. Et chaque moine qui lisait ce livre-là, eh bien, mourait, empoisonné. Bien, vous connaissez la suite de l'histoire, puisqu'il sera dénoncé par l'autre moine, Guillaume de Baquerville, et puis ce développement sur le rire montrera que bon, c'est le propre de l'homme, et c'est pas irréligieux de rire. Et d'ailleurs, cette pensée, ce sérieux, ce refus de rire, nous a quand même influencé notre société. Et si vous avez regardé le Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli, eh bien, vous avez un Jésus qui ne rit pas. Il ne rit pas. Jésus est divinisé par Zeffirelli. Il rit très rarement. Il est sérieux, tellement habité par sa mission divine qu'on a peine à découvrir son humanité. Il en est de même dans les représentations sculpturale ou de la peinture médiévale ou même de la Renaissance, bien, vous avez un Jésus qui ne rit pas jamais. Il est présenté comme quelqu'un de joyeux. En revanche, dans la série The Chosen, le réalisateur présente un Jésus joyeux, un Jésus qui rit souvent avec les enfants, mais aussi après avoir opéré un miracle. Par exemple, lors de la pêche miraculeuse, on voit des poissons, les gens sont contents, heureux, et Jésus rigole, il rit, il est joyeux, parce que la joie des autres est communicative. Eh bien, il est content d'avoir réalisé ce miracle et faire plaisir aux uns et aux autres. Le comble, c'est aux noces de Cana. Qu'est-ce qui se passe aux noces de Cana lorsque Jésus est invité, toujours dans The Chosen? Eh bien, Jésus transforme l'eau en vin. Eh bien, on voit ce Jésus, on distribue du vin, on sert du vin, pas distribuer, on sert du vin à tout le monde. Jésus lui-même boit du vin et Jésus rigole et il fait la fête. Eh bien, on dit non, c'est pas notre Jésus ça. C'est pas ce Jésus que nous connaissons. Eh bien, il danse avec ses disciples, bras dessus. Bon, on fait la... On dit, mais c'est pas Jésus. Non, c'est pas sérieux. Voyez? Non, tout à fait. Alors que c'est tout à fait normal, puisque lorsque je lis dans Sophonie, chapitre 3, verset 17, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui danse, qui sauve. Il est fort et t'assure la victoire. Il rayonne de bonheur. Son amour te donne une vie nouvelle. » Il pousse des cris joyeux à ton sujet, comme en un jour de fête. Voilà ce Dieu qui nous est présenté, ce Dieu joyeux, ce Dieu qui nous aime, et pas ce Dieu, sérieux évidemment, mais pas ce Dieu qui n'est pas favorable à l'expression du rire ou de la joie. C'est un Dieu joyeux que nous avons ici. Seulement attention, le rire d'Ismaël, est sanctionné. On serait tenté de dire, mais ce n'est pas juste. Un garçon de 13 ans, qu'est-ce qu'il a de plus naturel que de rire? Mais c'est l'épître aux Galates qui nous apporte un éclairage sur ce rire d'Ismaël. Et on apprend, c'est le seul texte d'ailleurs qui le dit, chapitre 4, verset 29, que le rire d'Ismaël était un rire moqueur et qu'Ismaël ne cessait de persécuter Isaac. Il se moquait d'Isaac. Et peut-être nourrissait-il une petite jalousie à l'égard de son frère Isaac. Mais voilà une des raisons pour lesquelles ce rire a été sanctionné. Voilà. Bien, Sarah, je vous l'ai dit, n'a pas apprécié ce rire et elle va demander à son mari de chasser l'esclave et son fils. Et vous avez la représentation assez douloureuse. Vous voyez que la tête baissée d'Ismaël qui porte un pain, le pain et l'eau. Vous voyez que la cruche remplie d'eau et les vêtements pieds nus d'Agar, et à l'arrière-plan, vous découvrez Sarah, et qui porte son fils Isaac, et qui assiste à cette scène, allez, chassez, vous ne pouvez pas rester avec mon fils, allez. Donc, c'est l'expression même de la vulnérabilité qui est présentée sur cette peinture. Une femme fragile, je ne dis pas en général que la femme est fragile, ce n'est pas mon propos, mais voyez que c'est l'idée de la fragilité qui rejaillit ici. Une femme, un enfant, désœuvré et qui est chassé, mais qui ne savent pas où ils vont justement. Et ils vont dans le désert, ils sont chassés, mais pas dans une maison, dans une demeure. Agar, je vous rappelle, un statut d'esclave. Elle n'a peut-être pas de parents qui pourraient l'aider, qui pourraient l'accueillir pour supporter cela. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle part désespérée, on voit des yeux hagards, justement, c'est le cas de le dire, et la tête baissée d'Isaac qui part pour une destination inconnue. Abraham est choqué, il est déçu. Et le lecteur que nous sommes, vous et moi, nous sommes désorientés par le manque d'humanité de Sarah. Mais quand même, où voulez-vous les envoyer, hein, cette mère et son enfant? Et pourtant, ce qui nous surprend encore, c'est que Dieu semble cautionner la décision de Sarah. C'est Dieu qui intervient pour convaincre le patriarche d'obéir à sa femme. Fais ce qu'elle te demande. La mort dans l'âme, Abraham agit conformément à la parole de Dieu. Il sait que si Dieu dit quelque chose, si Dieu ordonne, alors il connaît probablement le pourquoi de ses desseins insondables. Alors, voilà Agar qui retourne pour une nouvelle fois dans le désert, esselé et désespéré dans le désert avec un fils. Je vous ai dit qu'il n'y a personne pour les accueillir. La situation est relativement dramatique. Voilà. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Où est-ce qu'elle peut aller? Ou crier? Ou demander l'aide? Mais si on se souvient, au chapitre 16, lors de la première apparition de l'ange à Agar, une promesse lui avait été faite. Le garçon qu'elle portait dans son sein serait à la tête d'une grande nation. C'était la parole que le Seigneur lui avait dite. Mais l'expérience de d'Agar est la nôtre. Dieu nous dit des choses, et pourtant, quelques années après, nous doutons. Je dirais même, nous oublions. Souvenez-vous de Jean-Baptiste. Il s'était écrié en voyant Jésus de loin, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et plus tard, dans sa prison, il envoie des disciples demander à Jésus, « Es-tu vraiment le Messie ou devons-nous en attendre un autre ?» Voilà, on oublie les promesses de Dieu, on oublie la parole qui nous a été adressée. Agar est assise dans le désert. Et l'image mérite qu'on s'y attarde un peu. Assise dans le désespoir, assise dans le découragement, le plus absolu. Elle n'a plus de force pour faire quoi que ce soit. Elle ne sait plus où aller et elle pleure. Elle pleure puisque sa détresse est grande. Vers qui se tourner ? Nous dit une chanson, « Quand la source des larmes est tarie ». Et la réponse est donnée au verset 17. Oh non, c'est pas, je suis allé un petit peu trop tôt. Voilà. La réponse est donnée au verset 17, et permettez-moi de vous lire le texte. Verset 17, il nous dit ceci. Dieu entendit le garçon, le messager de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu le garçon là où il est. Lève-toi, prends le garçon et tiens-le bien, car je ferai de lui une grande nation. » Mes chers frères et sœurs, nous sommes saisis de vertige devant une telle déclaration. Bien-aimés, Dieu entend. Il n'est pas sourd à nos prières. Il n'est pas sourd à nos cris de désespoir, à nos cris de détresse. Il n'est pas sourd à nos supplications. Il est plein de pitié pour les femmes et les hommes, quels qu'ils soient. Il vient toujours à notre secours dans les moments de détresse où tout semble compliqué, sans issue. Et observez les occurrences dans ma version, il est dit le garçon, mais dans une autre version, vous avez l'enfant, car c'est encore un enfant, et quatre mentions. Il apporte des paroles réconfortantes une fois de plus à Agar. Sois sans crainte, une formule qui revient comme un leitmotiv dans la Bible. Et apprécions, mes bien-aimés, une fois de plus, le tact de Dieu, la bienveillante attention de Dieu. Lève-toi, Dieu a écouté, il a entendu, il agit. Il ne se contente pas d'écouter, mais il agit. Lève-toi, un verbe d'action. Et ce n'est pas un reproche, mais un encouragement à poursuivre sa route. On se souvient de l'intervention très édifiante de Dieu en faveur d'Élie, le grand prophète de l'Éternel. Il était complètement épuisé, découragé, et ne craignons pas les mots, déprimé. Et Dieu est intervenu en sa faveur en lui donnant de l'eau et du pain. Exactement la même chose que nous avons ici, de l'eau et du pain. 1 Roi, chapitre 10, verset 3 jusqu'au verset 9. Dans le Nouveau Testament, Jésus utilise aussi souvent cette locution verbale. « Lève-toi !» Et c'est un verbe grec, « egéro » qui signifie « ressusciter ».« Lève-toi et marche !» Il dit la même chose à Agar, il dit la même chose à Élie, et Jésus dira « Oh, personne qui ne guérissait, lève-toi et marche !» Et par ce moyen, Jésus donne de l'espoir au cœur abattu. Ici, dans notre récit, cette locution suppose que l'ange de l'Éternel relève Agar et son fils de la mort. Et non seulement il les relève, il les introduit dans l'espérance d'une vie remplie de bénédictions. Et le texte précise ceci, cela ne vous a pas échappé. Dieu ouvrit les yeux d'Agar. Et je tente ce jeu de mots. Dieu ouvre les yeux Agar d'Agar. Vous voyez, ses yeux tout larmoyants. Et lui montre une source d'eau. Verset 19. Vous voyez que dans le découragement, on ne voit pas clair. On voit le problème qui est devant soi. On ne voit pas plus loin. Et on a besoin que Dieu ouvre nos yeux, sèche nos larmes pour que nous puissions voir clair et découvrir les merveilles, la bonté, la bienveillance de notre Dieu qui ne nous abandonne jamais, qui ne nous délaisse jamais. Lorsque nous sommes abattus, lorsque nous peinons à lire et à découvrir les bontés du Seigneur, souvenons-nous de cette parole de foi. N'aie pas peur, car Dieu a entendu le garçon. Lève-toi, prends le garçon, tiens-le bien. Et verset 19, Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Voyez que Dieu nous ouvre toujours les yeux pour que nous puissions voir ses promesses, découvrir ses bontés. Une deuxième fois, Dieu intervient en faveur d'Agar, cette femme ordinaire, par des moyens tout à fait extraordinaires, pour la relever de sa détresse et lui donner de l'eau capable d'étancher sa soif. Et Jésus va dire ceci, « Si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son sein. » Elle est délaissée une seconde fois, mais elle n'est toujours pas abandonnée par le Seigneur de toute grâce, de toute bonté. Et Isaïe nous dit ceci, « Si ton père ou ta mère t'abandonne, je ne t'abandonnerai jamais, dit le Seigneur. » Alors pour conclure, mes bien-aimés, ce récit nous révèle une fois de plus l'amour de Dieu envers l'homme. Dieu est celui qui ne reste pas insensible à nos souffrances, à nos douleurs, à notre malheur, à nos désespoirs, à nos dépressions. Nous connaissons trop bien les paroles du psaume 34, verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses frayeurs. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Alors, tout comme Agar, que Dieu ouvre nos yeux pour que nous contemplions sa gloire, sa bonté et que nous ayons la certitude qu'il ne nous laisse jamais seuls, qu'il prend soin de nous. Et alors, la conclusion, je vous la projette, qui peut nous permettre de réfléchir un petit peu sur ce passage. Ce passage révèle aussi la complexité des personnages. Sarah, dont la joie maternelle se transforme en méfiance. Abraham, déchiré entre son amour paternel et l'obéissance à Dieu, et Agar, figure de la vulnérabilité, mais aussi de la résilience, guidée par l'ange vers une nouvelle alliance. Et à travers ce récit, nous sommes invités à réfléchir sur la place des marginaux, dans le dessein divin, et sur la manière dont Dieu se révèle, même dans des situations de rejet et d'abandon. Sur la croix du Golgotha, Jésus pousse un cri déchirant. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et dans un premier temps, le ciel semble d'airain. 3 jours après, le Christ triomphe de la mort. C'est ainsi que Dieu répond au pourquoi du Fils. Amen.